14h cet après-midi, discours de François Legault en vue de la prochaine session parlementaire. Ce sera normalement suivi d'un espèce de mini-budget de la part du ministre des Finances autour de la fin du mois de novembre. Ce sera intéressant de voir l'enlignement de ces paroles cet après-midi. François Legault parlera assurément de santé, du service de garde aussi. Et on a parlé à Jean Boulet, ministre du Travail récemment, la rareté de la main-d'œuvre. Ce sera un des points les plus importants, qui sera le plus traité dans cette session-là, avec des annonces à venir, du moins c'est ce qu'il nous a dit. Maintenant, tu regardes les sondages, François Legault, son taux de satisfaction, sa popularité, ça demeure très, 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 très fort. Réussit à garder l'adhésion de la population québécoise, malgré le fait qu'il a reculé sur plein de choses, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais souvent ceux qui sont mécontents, on les entend plus que ceux qui sont contents. Ça, c'est une règle facile dans la vie. On va aller en parler avec Dominique Anglade, qui est chef du Parti libéral du Québec, donc chef de l'opposition officielle. Madame Anglade, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Dites-moi, comment c'est d'être chef de l'opposition officielle dans un contexte aussi difficile que... On dit souvent, tu sais, François Legault place n'importe qui à sa place, il y aurait eu des points positifs, des points négatifs. Vous pouvez pas non plus tout le temps tomber dessus parce que ça risque d'être mal perçu avec son taux de satisfaction.
Oui, mais c'est aussi un beau défi. C'est aussi... la possibilité de présenter une vision pour le Québec qui est différente que celle qu'on a présentement avec la CAQ et avec François Legault. Moi, ce que je regarde beaucoup, et on fait du terrain, là, aller à la rencontre des gens, de ce qu'ils nous parlent, et on se rend compte à quel point le discours et ce qu'ils vivent dans leur quotidien, là, c'est pas reflété dans les propos de François Legault. Alors, le vrai sondage, il n'est pas cette année, le vrai sondage, il est l'année prochaine, hein?
Oui, effectivement. Par contre, vous faites quand même des sorties, des actions, parce que vous devez trouver que vous êtes un peu menotté dans votre rôle actuellement dans un contexte d'urgence sanitaire, alors que le bilan s'améliore de jour en jour.
Bien, de plus en plus, on va pouvoir être présent justement parce que on veut avoir un gouvernement, là, François Legault, qui arrête de gouverner de manière aussi autoritaire et surtout sans consulter. Ce qu'on a constaté, c'est que je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu François Legault avec des infirmières, avec des gens du service de garde ou même avec des entrepreneurs. Par contre, il est capable de nous dire, ben voici ce que vous devriez faire, voici comment vous devriez voter, quel parti vous devriez appuyer. Je pense qu'on est rendu à avoir un gouvernement qui prend des décisions dans sa tour d'ivoire puis qui les donne ou qui les dit ou dicte aux Québécois. Puis regardez, aujourd'hui, il va faire une annonce, mais ça aurait été bien d'avoir consulté du monde, qu'il ait rencontré des gens, que les gens puissent émettre leur opinion, puis qu'ensuite, il nous arrive avec une proposition. On a l'impression que tout est concocté dans son bureau de premier ministre sans parler aux gens qui sur le terrain. Puis les gens sur le terrain, ils commencent réellement à avoir des inquiétudes pour la suite des choses.
Mais soyons honnêtes, en matière de stratégie politique, parce que là, vous parlez pour les gens, mais au niveau des différentes formations d'opposition dont vous en êtes, tant qu'on est en urgence sanitaire, c'est dur pour vous de faire entendre, puis c'est dur pour vous de challenger le gouvernement actuel, parce que du moment qu'on cautionne l'état sanitaire ou l'urgence sanitaire, ben on peut pas trop remettre les choses en discussion. Donc, vous vous retrouviez un peu menotté, comme si mon collègue le dit.
Oui, vous avez raison jusqu'à un certain point. Mais là, maintenant, là, il y a une reddition de compte qui doit apparaître. Là. C'est pas juste de dire, on comprend qu'il y a des règles sanitaires à respecter, mais ça ne permet pas au gouvernement et ça ne devrait pas permettre au gouvernement de signer des ententes de contrats de gré à gré sans même qu'il y ait de vérification, de faire des contrats de manière très large. Ils ont encore beaucoup trop de pouvoir par rapport à la situation actuelle qui s'est quand même, somme toute, améliorée avec la vaccination, etc. Donc, nous, c'est clair qu'on continue de demander qu'il y ait une bien meilleure édition de compte et qu'ils répondent aux questions. Mais encore une fois, ça fait en sorte que on constate que François Legault, il aime gouverner comme ça. Il aime gouverner sans avoir à répondre aux questions, sans avoir à répondre de ses actes. Je vais vous donner un exemple. Hydro-Québec, la facture d'Hydro-Québec, là, hier, ça a été annoncé que ça allait augmenter pour tous les Québécois. C'est une décision de François Legault qui fait qu'aujourd'hui, on a une augmentation aussi importante d'Hydro-Québec. Parce qu'au début de son mandat, il a dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir la régie qui va contrôler les prix pour la population. Là, ça va être juste, on va juste le contrôler différemment, puis ça va être bon pour tout le monde. On avait dit, il y a un risque important que ça coûte plus aux Québécois. Mais le résultat, c'était hier. On nous annonce une hausse de tarifs importante. Mais beaucoup des décisions qu'il prend ont des effets réels sur la population aujourd'hui, puis je pense que les gens vont commencer à s'en rendre compte de plus en plus.
Ben, vous venez de dire justement qu'il aime gouverner comme ça. Pensez-vous qu'il maintient l'urgence sanitaire plus longtemps, même si les statistiques ne le nécessitent plus, parce qu'il va faire avancer son agenda politique plus facilement de cette façon-là?
Oui, moi je pense qu'il y a un élément de ça qui est vrai. Alors il se dit, je maintiens l'urgence sanitaire à tous les éléments de l'urgence sanitaire, je renouvelle 82 fois les décrets, ça me permet de faire exactement ce que je veux. Est-ce qu'il est obligé de gouverner comme ça? Absolument pas. Oui, il faut respecter les règles sanitaires, mais en même temps, il n'a pas besoin d'avoir tous ses pouvoirs qui lui permettent de faire exactement ce qu'il veut ou ne veut pas. Puis on constate, de temps en temps, il y a quelque chose qui sort, puis on dit, comment ça, ce contrat-là, il a été donné? Ou comment ça, ce contrat-là n'a pas été donné? On l'a vu dans les masques, par exemple, en matière de santé, où ils ont décidé de ne pas favoriser une entreprise qui produit des masques au Québec. Tu sais, il y a des décisions qui sont prises qui n'ont aucun sens. Et oui, effectivement, ça monte à la tête du premier ministre que de pouvoir gérer de cette manière-là.
Je suis assez sensible à votre revendication de mettre fin à l'urgence sanitaire. Encore faut-il que vous puissiez avoir le poids de tout ça pour le revendiquer. Le Parti libéral n'est pas un parti insignifiant, mais pourquoi ne pas faire une sorte de coalition spontanée avec les autres partis d'opposition pour réclamer la fin de cette urgence sanitaire-là?
Je pense que c'est une bonne proposition que vous faites là. C'est-à-dire que au bout du compte, on l'a dit, on l'a répété, on a été les premiers à le soulever il y a des mois, d'ailleurs, en disant, attention, là, quand vous renouvelez ça sans arrêt, il n'y a aucune réduction de compte, ça marche pas. Alors, on est rendu à 82 fois. Est-ce qu'il va falloir avoir une 83, 84, 85 pour garder tous les pouvoirs? Il va falloir qu'il y ait une réduction de compte. On veut savoir ce que vous faites avec tous ces pouvoirs-là. Je vais vous donner un autre exemple. Il a fait une vidéo hier sur l'annonce qu'il va faire aujourd'hui.
Ouais.
Nous, là, on a fait une vidéo il y a 5 mois. Sur la suite des choses. C'est payé par le Parti libéral du Québec, c'est pas payé par les fonds publics. Ce qu'il fait, là, présentement, il utilise des fonds publics à des fins qui sont partisanes. Alors, ça aussi, c'est un enjeu. Et ça, je pense que le fait de gouverner par décret sans avoir à répondre aux questions, bien, ça lui permet de faire exactement ce qu'il veut. C'est un enjeu.
Madame Anglade, vous avez fait vos premiers pas en politique avec la coalition Avenir Québec il y a quelques années. Est-ce que le François Legault que vous connaissiez, c'est le même qu'aujourd'hui?
Oui, à bien des égards. Oui, je pense pas qu'il change.
Intéressant, ça, c'est-à-dire?
Ben non, parce que je pense que on prend des décisions qui sont des décisions de court terme qui ont des incidences majeures. Je vais vous donner un autre exemple de décision de court terme. Il est rentré au gouvernement puis il a dit des dossiers d'immigration, il y en avait 18 000 en attente, là, qui correspondaient à environ 40 000 personnes. Oh, on va juste les détruire. Vous n'allez pas regarder c'est qui, vous n'allez pas regarder c'est quoi les professions. Vous allez, non, on vous a juste dit non, c'est pas bon, nous, c'est pas bon, on détruit tout ça, puis on met ça au vidange, etc., on commence, etc. Regardez où on est aujourd'hui. Il y avait 40 000 personnes là-dedans. Combien de préposés aux bénéficiaires? Combien d'infirmières? Là, la semaine passée, le gouvernement a dit, il faudrait qu'on aille peut-être recruter des infirmières à l'étranger, mais moi, on en a recruté 4 000. Combien qui serait déjà passé dans ce système-là si on n'avait pas fait ça? Fait qu'on prend des décisions de courte vue sans voir les incidences. Écoutez, la semaine, il y a quelques mois encore, il disait la pénurie de main-d'œuvre, moi, je vais m'occuper des gens qui font plus que 56 000 $ par année. Pourquoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais les autres, on est dans une société, on doit se rassembler, tout le monde compte. Puis aujourd'hui, on a 200 000 emplois vacants. Ça touche notre système public, ça touche aussi les entrepreneurs. Et ça a une incidence sur toute la société. Ça, ce sont des décisions qu'il prend courte vue pour répondre à un besoin vraiment court terme, mais après ça, on en voit les conséquences.
Et pour revenir à ma question, vous le croyez à l'époque, vous aviez le goût de travailler avec lui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous changez votre fusil d'épaule et vous critiquez ce qu'il fait?
Vous me remettez il y a 10 ans. J'y ai cru au départ quand la CAQ a été lancée parce que c'est un nouveau parti. On va mettre de côté les gens qui sont des souverainistes, des fédéralistes. Tout le monde va être dans le même bateau. Puis on va vraiment penser l'avenir différemment. Mais je me suis rapidement rendu compte que les idées qu'il amène aujourd'hui qui sont les mêmes, il fallait absolument abolir les commissions scolaires. Mais il n'y avait pas de vision. C'est quand la dernière fois au Québec, on a rêvé d'un grand projet de société ensemble. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on remonte à l'hydroélectricité ou à la révolution tranquille. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà des couleurs des partis politiques, il nous faut un véritable projet de société où on parle de nos changements climatiques, on parle d'enjeux auxquels le Québec peut véritablement contribuer. Puis nous, notre formation politique, c'est là où on veut aller. Alors, je me reconnaissais pas. Au bout d'un an, j'ai laissé tomber. Ça vous me ramenez 10 ans en arrière, mais c'est ça. Je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Puis j'ai dit, je vais aller faire autre chose. Puis je suis partie pour une entreprise avant de faire de la politique après. Mais moi, je pense que ce dont on a besoin présentement, c'est de se rassembler, c'est de penser un projet de société, c'est de penser aux enjeux climatiques, de voir comment le Québec peut aider à se transformer son économie de manière moderne, avoir des emplois qui font ça qu'on contribue à améliorer notre planète, puis on contribue à améliorer le sort de notre monde aussi.
Madame Anglade, avant qu'on se quitte, je voyais dans un article de la presse ce matin que vous avez salué l'Organisation du Canadien qui a pris l'initiative de réciter en début de partie de parti local un texte concernant l'historique de la ville de Montréal et que c'est un territoire Mohawk non cédé. En réalité, vous faites partie de ceux qui saluent l'initiative du Canadien, mais beaucoup d'historiens disent que cette information est erronée. Pourquoi, à ce moment-là, saluer l'initiative du Canadien si les historiens eux-mêmes, qui sont les spécialistes sur la question, ne sont pas sûrs d'exactitude de cette réponse?
Oui, bien en fait, deux choses. Les faits, c'est vraiment important. Donc, oui. De savoir sur quel territoire, est-ce que c'était un territoire Mohawk ou un territoire algonquin, je veux dire, il y a des discussions, mais c'était un territoire qui était... c'était un territoire qui était occupé par des nations autochtones à l'époque. Ça, c'est un fait. C'était occupé par des nations autochtones. Maintenant, lesquelles? C'est vrai qu'il y a des débats par rapport à ça. Et j'ai dit qu'il faudrait vérifier ces éléments-là. Maintenant, je salue l'initiative du Canadien de vouloir, à leur manière, contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones, de le faire de cette manière-là. Je pense que c'est une bonne chose. S'assurer, par contre, que lorsqu'on va mentionner de quel territoire il s'agit, qu'on sache exactement... qui devrait être mentionné dans tout ça.
Ben, ça reste que je trouve ça pertinent à savoir l'exactitude des faits et de manière un peu populiste, j'avoue, j'irais à dire qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de l'histoire quand je vais voir une game du Canadien si, en réalité, on parle... J'essaie de comprendre la pertinence réelle de tout ça.
Ben, je pense que dans la notion de réconciliation avec les peuples autochtones, chaque groupe, les individus ou les formations politiques ou le Canadien de Montréal ou peu importe, décide d'une manière dont il va faire, dont il va se comporter. Ça pourrait être, par exemple, est-ce qu'on prend une journée fériée pour la réconciliation avec les peuples autochtones, avec ce qui s'est passé pour les enfants que l'on a retrouvés qui ont disparu puis qui ont été enterrés finalement. Donc, ça, c'est un exemple, je sais ce que tu peux poser. Tu peux aller manifester avec des nations autochtones. C'est une autre manière de le faire.
Mais vous avez dit d'ailleurs, puis je pense que vous avez raison, l'Organisation du Canadien n'est pas la seule organisation sportive à le faire. Il y a d'autres organisations qui le font.
Oh non, il y en a plein. Ouais. Oui, il y en a plein. En fait, c'est une des rares à ne pas le faire, le Canadien de Montréal. Donc, je pense pas qu'ils soient des leaders en le faisant non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà emboîté le pas. Mais c'est à chacun de voir comment est-ce qu'il peut contribuer. Moi, je pense que si vous décidez, ben moi, je vais aller marcher une fois parce que j'estime que c'est une cause qui est importante, ben bien. Moi, j'encourage les gens à poser des gestes parce que c'est ensemble qu'on va avancer. Hein. C'est ensemble qu'on va faire en sorte que le Québec va être plus fort. Et qu'on n'a pas intérêt à se diviser sur ces enjeux-là.
Madame Anglade, merci beaucoup.
Salut.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, opposition officielle, qui aimerait quand même avoir les coups des franges pour faire son travail d'opposition officielle, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Puis c'est sorti vite là, quand je lui ai demandé, est-ce que vous croyez que François Legault garde l'urgence sanitaire plus longtemps que nécessaire seulement pour faire avancer son agenda politique à un an des élections? Le oui est sorti vite. Là.
Ben, sais-tu quoi? Il ferait probablement... la même affaire. Je fais référence aux libéraux, mais si c'était le PQ, si c'était le Québec solidaire, ils feraient la même chose parce que c'est stratégiquement brillant. C'est malhonnête, mais c'est brillant. Autrement dit, ils musellent l'opposition qui, durant toute la crise sanitaire, n'ont pas été capables de gagner des précieux points pour attirer la faveur du public vers eux. Parce que si t'es trop populiste, t'as l'air d'un extrême, un peu à la manière de Duhem, mais si tu fermes ta boîte, tu gagnes pas de points politiques. Ouais. Donc, la manière de gouverner de François Legault avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu de notre vie, c'est-à-dire un décret puis de l'urgence sanitaire qui est renouvelable et automatique, c'est brillant. Maintenant, est-ce que c'est moralement acceptable en tant que diplomatie nord-américaine? Moi, je trouve que non. Et tant et aussi longtemps qu'on ne replongera pas dans une réelle calamité sanitaire comme on l'a peut-être eu au début de l'année passée, ben tu ne peux pas maintenir l'urgence.
Et j'aimerais ça l'entendre là-dessus, puis je l'ai peut-être manqué. L'as-tu entendu, toi, justifier pourquoi le 19 octobre 2021, nous sommes encore en urgence sanitaire, puis je veux pas avoir des réponses ou des argumentations de la part du gouvernement telles, ben vous savez, nos jeunes de 5 à 11 ans sont pas vaccinés. Les chiffres ne justifient plus ça.
C'est pas compliqué, Simon, il y a eu 4 morts hier à cause de la COVID. Là. 4 morts sur 48 000 morts au Québec dans une année.
Oui,
il meurt des centaines de personnes par jour au Québec. 4 morts de la COVID sur des centaines par jour, c'est insignifiant. Ce n'est pas une urgence sanitaire. Ça peut être une crise sanitaire, ça peut être une réalité sanitaire, mais ce n'est pas une urgence qui te permet... Et je vous rappelle que le terme, c'est une chose, c'est les pouvoirs qui sont qui sont dangereux. C'est-à-dire que ça te permet d'octroyer des contrats sans appel d'offres, ça muselle l'opposition et ça permet également des mesures de sécurité publique plus poussées qu'à la normale.
C'était nécessaire au début?
Je pense que dans l'inconnu et dans la progression du virus, ça pouvait, avec du recul, même si ça nous a fait tuer, être justifié. Maintenant, ça ne l'est plus et ça a plein d'impact.
T'sais, les contrats et tout ça, puis l'enlignement, c'est pas mal déjà fait après près de deux ans.
J'ose croire.
On comprend que le système de santé ne fournit pas, puis c'est tout croche, mais je crois pas que ce soit la mention d'urgence sanitaire qui leur permettra de régler le problème nécessairement plus facilement.
On veut pas être de mauvaise foi, là, mais...
J'aimerais l'entendre, l'expliquer pourquoi on persiste et signe avec l'urgence sanitaire autrement que par des grandes généralités.
On revient dans quelques minutes. 95.7 Geek Saguenay.